La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Aujourd'hui, nous allons parler du soleil. Il y a tellement à dire sur le soleil et les médias s'en emparent dans tous les sens, souvent pour faire peur aux gens, de manière abusive. J'ai lu récemment un titre d'article sur un site bien connu. Le soleil va-t-il provoquer le chaos sur Terre en 2024 ? Évidemment, la suite de l'article montre qu'il n'en est rien et analyse le sujet, mais le mal est fait pour ceux qui ne lisent que les gros titres, et ils sont nombreux. Le soleil, en fait, est une étoile qui fonctionne bien et pour longtemps, plusieurs milliards d'années. Son énergie provient de réactions nucléaires qui se produisent dans ses régions profondes. Alors, pourquoi s'inquiéter des humeurs du soleil ? C'est qu'il se passe effectivement des choses bizarres dans ces régions superficielles. Ces choses bizarres ne sont pas nouvelles, elles se produisent tout le temps, plus ou moins, depuis que le soleil existe. Mais elles ne sont pas totalement comprises. On sait qu'elles sont liées au magnétisme qui se développe dans ces régions externes. J'ai aujourd'hui avec moi pour décrypter tout cela Arturo López Ariste, qui est astrophysicien et qui a récemment développé, entre autres choses, un instrument au Pic du Midi dédié à l'observation des régions externes du Soleil. Bonjour Arturo.
Bonjour.
Arturo a une formation de physicien théoricien, d'abord à l'université de Saragosse en Espagne, puis à l'Observatoire de Paris. Après ses études universitaires, il est parti aux États-Unis. Il a été chercheur pendant 3 ans à Boulder, dans le Colorado, au National Center for Atmospheric Research, le bien connu NCAR, et plus spécialement au HAO, qui est le High Altitude Observatory. Arrivé en France en 2003, il est reparti aux îles Canaries comme astronome résident au service d'un télescope français installé à Tenerife, sur la montagne Teide, l'instrument solaire TEMIS, ce qui signifie « télescope héliographique pour l'étude du magnétisme et des instabilités solaires ». Arturo a obtenu la médaille de bronze du CNRS en 2007, une belle distinction. Et il est à présent à Toulouse depuis 2014. Arturo, nous parlerons du nouvel instrument coronographe que tu viens d'installer au Pic du Midi, le plus grand du monde, je crois. Mais auparavant, il est important de replacer tout cela dans le cadre général de l'étude du Soleil et de ses conséquences. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce qui se passe en permanence dans les régions externes du Soleil et comment cela évolue au cours du temps ? La couronne solaire, par exemple, que les gens connaissent grâce aux éclipses totales de Soleil.
Donc, cette couronne solaire est la couche la plus externe de l'atmosphère solaire. Et en fait, elle est très faible en brillance et il y a très peu de matière dans cette couronne solaire. Et effectivement, jusqu'aux années 1930, on ne la voyait que pendant les éclipses. Aux années 1930, en français, Bernard Liot a eu l'idée de générer des éclipses artificielles. C'est une façon un peu barbare de dire qu'il a créé un instrument qui s'appelle le coronographe et qui cache la lumière des disques solaires et nous permet de voir la couronne même en dehors des éclipses. Et c'est comme ça qu'on a commencé à étudier cette couronne et on a commencé à comprendre que des choses très intéressantes se passaient en elle. Et tout d'abord, c'est là où se génèrent les événements qui donne lieu à cette météorologie spatiale, ces orages magnétiques. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est une autre particularité de la couronne, c'est qu'elle est extrêmement chaude. On mesure des températures qui dépassent largement les millions de degrés.
Alors que la surface du Soleil, proprement dite, ce qui nous envoie la lumière, c'est beaucoup moins.
À peine 6000. À peine, vous voyez.
Donc on passe de 6000 degrés, c'est-à-dire que le Soleil est très chaud au centre, hein, dit 16 millions de degrés. Ensuite, à l'intérieur du Soleil, dans les régions extérieures, ça baisse à 6000 degrés. Et après, ça remonte brutalement à quelques millions de degrés. Et ça, c'est la couronne, c'est ça, c'est quand même extraordinaire.
C'est extraordinaire et incompréhensible. Parce que plus on s'éloigne de la source de chaleur, plus la matière devrait être froide. Or ici, il y a un moment où tout le contraire se passe. Donc il y a quelque chose qui réchauffe la couronne. Et qu'est-ce que c'est que cette chose ? Voilà le mystère.
Ben, c'est le champ magnétique, d'après ce que j'ai compris. Mais de quelle manière ?
Depuis 75 ans qu'on a compris que la couronne était extrêmement chaude, on a vu que le champ magnétique avait quelque chose à voir avec ces phénomènes de chauffage. Et aujourd'hui, la communauté solaire se divise en deux. Dans tous les deux cas, c'est les champs magnétiques qui jouent le rôle prépondérant. Il y aura les uns qui disent que ces champs magnétiques, ils bougent, poussés par les mouvements de la surface du Soleil, et dans ces mouvements, il arrive qu'ils se croisent et ils provoquent un phénomène très mal compris, et donc, qu'on appelle la reconnexion magnétique, et dont on ne sait pas grand-chose, mais cette reconnexion magnétique serait capable de générer beaucoup de chaleur.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'énergie dans le champ magnétique, et le champ magnétique, il se tord, il se reconnecte, il fait plein de choses, et il libère son énergie, c'est ça, et ça devient de la chaleur.
C'est ça l'idée. L'idée globale, on la comprend, mais dès qu'on entre dans les détails, rien ne marche. Il y a un phénomène solaire qu'on appelle les fulgurations.
Fulguration ?
Oui.
Ah. Très souvent, on utilise le mot anglais « flare », mais le mot français correct, c'est « fulguration ». Et dans lequel on voit beaucoup de chaleur se dégager, même si
alors
on ne comprend pas.
Alors, quand on dit qu'on voit la chaleur se dégager, il faudrait peut-être un peu expliquer aux auditeurs comment est-ce qu'on voit, de quelle manière on voit que c'est chaud.
Alors, l'objet, il n'est pas à notre portée, donc on ne peut pas amener un thermomètre là-bas. Donc, comment on sait qu'il est chaud? On regarde la lumière qui émet. Et on a tous l'expérience d'un fer mis à blanc. Et on sait qu'il est chaud. On chauffe un morceau de fer. D'abord, on ne voit rien de particulier. Puis, on voit une lueur rougeâtre qui commence à devenir de plus en plus brillante. Finalement, quand le fer est très chaud, il devient blanc. Donc, on voit là que la lumière émise par un objet dépend de sa température ou peut dépendre de sa température. La lumière émise dépend de la température de l'objet qu'il a émis. Et c'est ça qu'on fait sur le Soleil. On va regarder comment elle est émise, cette lumière. Et par exemple, lors d'une fulguration, on voit que la couleur de cette zone du Soleil qui souffre la fulguration, elle passe d'une distribution de couleurs qui est compatible avec ces 6000 degrés dont on parlait avant, à des températures qui dépassent les 5000 degrés. Et donc on voit la lumière émise qui évolue, qui change de couleur, et on conclut sur cette température. La lumière émise par la couronne est compatible avec un objet qui a été chauffé à des millions de degrés. Il y a un moment, lors de ce mouvement, de cette dynamique, on voit que la température a augmenté énormément et que les champs magnétiques sont organisés autrement. Et donc, on doit comprendre que cette réorganisation des champs magnétiques, qu'on appelle la reconnexion magnétique, a réussi à libérer la chaleur. Donc, ça, on le voit très bien dans les fulgurations, même qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas résoudre les équations. On pourrait imaginer que dans la couronne solaire, la même chose se passe. Des fois, on croit voir des choses qui ressemblent, mais pas toujours. Or, la couronne reste à 1 million de degrés. Alors, quel autre mécanisme pourrait chauffer la couronne? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a les champs magnétiques qui partent de la couche la plus basse de l'atmosphère solaire, elles remontent jusqu'à la couronne, et dans ces lignes de champs magnétiques, on mesure des ondes qui se propagent et qui partent de la photosphère et qui arrivent à la couronne. Et ces ondes portent de l'énergie. On a tous la sensation, quand on voit un concert de rock, on peut sentir les bruits qui poussent sur nos oreilles et qui, des fois, même poussent sur notre peau. Donc, une onde porte de l'énergie. Donc, ça, c'est bon. On voit ces ondes partir de la photosphère, chargées d'énergie, et arriver à la couronne. Il nous suffit qu'ils déposent cette énergie. Malheureusement, personne ne sait comment faire ça. Donc, voilà, le deuxième groupe de théories qui utilise les ondes pour amener de l'énergie de la couronne ont le problème que personne ne sait comment convertir ces ondes, cette énergie de ces ondes en chaleur. Et c'est là où j'ai eu une petite idée il y a quelques années de comment ça pourrait se faire. Et donc j'essaye d'explorer cette idée.
Donc c'est pour ça, c'est une des raisons d'installer un coronographe ou de faire des observations au coronographe pour avoir plus d'informations sur ce sujet.
Exact, c'est un peu la méthode scientifique amenée à l'extrême. On émet une hypothèse, dans ce cas-ci, pour qu'est-ce qui pourrait chauffer la couronne solaire. On imagine quelles observations pourraient confirmer ou réfuter cette théorie. Et maintenant, on passe à l'expérimentation, qui dans le cas de l'astronomie, c'est de l'observation. On construit l'instrument capable de voir ça, et on verra s'il nous donne raison ou il nous prouve pas.
Alors, toute cette matière qui est éjectée du Soleil et qui arrive sur la Terre, entre autres, est-ce qu'elle peut causer des problèmes pour nous, les êtres humains, sur la Terre?
Jusqu'à il y a 70 ans, à peu près, absolument aucun. Ces matières arrivées, elles étaient déviées par les champs magnétiques terrestres, qui fait une espèce de bouclier qui nous protège de toutes ces matières. Elles étaient déviées, elles retombaient dans les pôles, elles faisaient des belles aurores boréales, comme on peut en voir toujours. Mais depuis 70 ans, notre société, notre civilisation amène des choses dans l'espace, des satellites de communication, des satellites météorologiques, même des astronautes. Et là, il y a un vrai risque. Ces particules chargées peuvent endommager les satellites, peuvent même les cramer, pour utiliser un mot commun. Et du côté des astronautes, ils peuvent arriver à les tuer. C'est comme si c'était de la radiation, de la radioactivité, n'est-ce pas? Et donc, on fait très attention ces jours-ci à ces météorologies spatiales, à l'arrivée de ces orages magnétiques pour protéger les satellites, pour protéger nos astronautes. Et on pourrait même raconter une anecdote. C'est que ce n'est que récemment qu'on s'est rendu compte de tout ce type d'influence sur nos satellites et nos astronautes. À la fin des années 69, quand on est arrivé à la Lune, on ne le savait pas. Et aujourd'hui, on considère que c'est une prise de risque incroyable d'envoyer des astronautes à la Lune. Et ils ont été très chanceux parce que l'activité magnétique du Soleil était très faible. Mais s'il y avait été beaucoup plus forte, on aurait carrément mis en danger la vie des astronautes de la mission Apollo. Donc c'est quelque chose qu'on a appris depuis, et maintenant on fait beaucoup plus attention. Mais voilà l'impact que le soleil, ces éjections de masse coronale peuvent avoir sur nous, sur notre civilisation technologique.
Mais les parois des satellites et tout ça, ça ne suffit pas pour empêcher?
Du point de vue des astronautes, oui, et c'est ça qu'on fait dans les stations spatiales. Mais pour les satellites qui ne portent pas des humains à l'intérieur, eh ben, on a un intérêt à les faire légers. Donc on joue là avec, qu'est-ce qu'on fait? On met une paroi plus grosse qui protège de la radiation, ou peut-être mieux, on développe des méthodes de prévision de la météo, et dès qu'on voit un orage magnétique solaire arriver sur la Terre, simplement on éteint les satellites, on les met en mode protégé.
Arturo, on va reparler de tout ça la semaine prochaine. Tu vas nous expliquer ce coronographe, nouveau coronographe au Pic du Midi, et toute l'histoire aussi des coronographes au Pic du Midi. La semaine prochaine, Arturo, au revoir.
Avec grand plaisir, à la semaine prochaine.